RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story aujourd'hui. Abel Bouilly, éducateur, Laura Varton-Martinez qui est sophrologue et puis le docteur Jérôme Marty. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Avec Sarah Knafo, eurodéputée et candidate reconquête à la mairie de Paris, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Sarah Knafo, vous regrettez vos propos ?
Lesquels ? Comme ça ?
Oui.
Est-ce que je regrette mes propos ? Bonjour à vous.
Ceux que vous avez tenus au mois de mai 2025, on gagnerait à s'inspirer de la politique de Donald Trump.
Alors, je considère que
ça prend un petit coup de vieux, ça, quand même.
Alors, je considère qu'avec Donald Trump, on a parfois des objectifs intérieurs qui sont communs et des intérêts divergents. C'est une chose très importante à voir, c'est que Trump est finalement le représentant d'une grande vague occidentale sur plusieurs sujets, que ce soit la lutte contre les dépenses publiques néfastes, que ce soit la lutte contre l'immigration, notamment
d'accord,
l'immigration clandestine.
On parle pas de ça.
Donc, prenez ma phrase dans son contexte, puisque quand je dis qu'on gagnerait à s'inspirer, c'est que moi je regarde tous les pays qui ont des objectifs similaires aux nôtres et je vois comment ils essayent de les mettre en application. Je regarde l'Italie de Meloni, je regarde l'Argentine de Milei, je regarde le Salvador de Bukele, d'accord, je regarde Singapour, je regarde Hong Kong, bref, je regarde les modèles et ma passion, c'est de voir ce qui peut marcher, ce qui a déjà marché dans l'histoire, ce qui marche ailleurs dans le monde.
Et puisque c'est comme son ça comportement et ses déclarations concernant le Groenland, la façon dont
alors
il a lâché les Iraniens, la façon dont il nous maltraite, la façon dont il nous parle.
Maintenant, on va prendre la deuxième partie de ma phrase. Nous avons des intérêts divergents. Il n'y a pas une nation au monde qui a les mêmes intérêts sur tous les sujets. Prenez même l'Allemagne, qui est un allié, le fameux couple franco-allemand. On a des intérêts divergents, par exemple, sur le nucléaire.
On ne se parle pas comme ça, entre Allemands et Français. On ne se parle pas comme les Américains nous parlent en ce moment.
Ah, vous avez raison que les Américains, ça fait bien longtemps. Qu'est-ce que j'ai dit quand Trump a gagné l'année dernière ? J'ai dit qu'il va y avoir un mérite à cette victoire, c'est qu'on va enfin voir de quoi l'Amérique est capable, parce que Trump, c'est l'Amérique éternelle, mais à visage découvert. C'est-à-dire qu'il nous fait ce que les Américains nous ont toujours fait, et on n'avait jamais entendu personne. Quand M. Pierucci, un cadre de notre industrie, a été enfermé dans les geôles américaines, c'était sous Barack Obama. Moi, j'ai pas beaucoup entendu François Hollande à l'époque dire que les États-Unis n'étaient pas notre allié. Quand on nous a fait rompre des contrats, notamment de sous-marins avec l'Australie, pareil, j'ai pas beaucoup entendu la classe politique. Où était Emmanuel Macron à ce moment-là ? Donc, ce que nous montre Trump, c'est que oui, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les autres puissances. Et que oui, il faut se défendre. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le Groenland.
Mais c'est un allié.
Quand on défend le Groenland, et on a raison de le faire, c'est un territoire qui appartient à une nation européenne. Pourquoi est-ce qu'on défend pas avec la même vigueur la Nouvelle-Calédonie ? Vous savez que la Nouvelle-Calédonie, elle est elle aussi soumise aux appétits chinois, aux appétits azéris. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va discuter avec des indépendantistes qui sont parfois des relais de la Chine et de l'Azerbaïdjan. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même vigueur quand ça nous concerne ? Donc moi, ce que je dis, c'est que...
Mais vous dites bravo à Macron ? Bravo à Emmanuel Macron.
Moi, je suis toujours du camp de la France, c'est bien clair.
Donc,
je suis pas la porte-parole de Trump.
Donc Emmanuel Macron a eu raison de tenir les propos qu'il a tenus.
Emmanuel Macron a raison de dire qu'un territoire européen ne peut pas être envahi. C'est absolument logique. Vous m'imaginez vous dire oui à une invasion ? Vous m'imaginez vous dire ça ? C'est absolument logique. Ce que je dis, c'est que nous avons des intérêts divergents et que notre intérêt, c'est de nous défendre en toutes circonstances. On a un devoir de puissance. Je dis pas bravo Emmanuel Macron quand il a mis 8 ans à se réveiller pour dire qu'il fallait faire un effort dans la défense. Je lui dis pas bravo pour ça.
Il a toujours défendu une souveraineté européenne.
C'est
ça,
faux.
On peut pas lui...
lors de son premier mandat. Regarde, vous vous rappelez quand Pierre de Villiers a démissionné ?
Oui. Mmh.
Pourquoi il avait démissionné ?
On l'a pas écouté.
Exactement. Parce qu'Emmanuel Macron baissait le budget de la défense. Est-ce que c'est ça être visionnaire ? Je crois pas.
Depuis,
quand on dit gouverner, c'est prévoir.
Depuis, on a mis plus d'argent.
Il a mis 8 ans et on a perdu énormément de temps. On a un devoir de puissance et il faut l'appliquer.
Juste un dernier mot sur Trump quand même, parce que là, sa coalition de la paix avec le Pakistan, avec la Turquie, avec la Biélorussie, personne peut l'accepter, ça quand même.
C'est exactement ce que je vous dis. On doit être puissant, nous. Regardez le continent européen aujourd'hui. Ce que j'ai dit, depuis les États-Unis d'ailleurs, c'était. Avec l'élection de Trump, on va se rendre compte que la France doit être le leader militaire du continent européen. Regardez les Danois, ils se défendent aujourd'hui avec vigueur et ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à acheter des avions de chasse américains pendant tant d'années ? Ils se sont mis dans la main des États-Unis.
Donc il faut plus d'Europe.
Pour changer. Donc il faut plus de France dans l'Europe. Il faut que la France soit au service de la protection du continent. C'est exactement ce que voulait faire le général de Gaulle. Je m'inscris exactement dans cette philosophie. Il disait grâce à la défense française, grâce au fait que la France soit le seul leader nucléaire du continent, grâce à une armée magnifique qu'on a aujourd'hui, et on a la chance de l'avoir, grâce à une industrie de défense exceptionnelle, on a toutes les cartes en main pour devenir le leader militaire du continent.
Vous êtes candidate à la mairie de Paris.
Parlons-en.
J'ai regardé votre programme, c'est retour vers le passé.
Ah, c'est tout le contraire.
Le périph' à 80, de nouveau, les voies sur berge pour les voitures. Avec vous, on va revenir au Paris de Georges Pompidou.
Alors, si pour vous, la modernité, c'est de prendre de mauvaises décisions, ça, je vous confirme que je vais revenir sur les mauvaises décisions.
Non, mais c'est le Paris du tout voiture.
Alors, c'est tout le contraire. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment regardé, mon programme.
Il y a
programme.
Une promenade aussi 130... au-dessus des voies sur berge.
Merci, monsieur. Voilà. Merci, monsieur. C'est pas un retour en arrière.
Abel a vu la promenade.
C'est bien mieux que ce qu'il faisait hier.
Franchement, le site, il est hyper attrayant.
Abel a lu le programme.
Il est hyper attrayant. Il est fait en intelligence artificielle. Artificielle. Il n'y a que des images faites avec
style très
avec
années 70 en plus.
C'est Sarah in Paris. C'est ça quoi.
Il y a
en fait.
Énormément de commentaires.
Attends, il faut expliquer de quoi il s'agit parce que tout le monde n'a pas vu le programme. Donc effectivement.
Je vais revenir dessus. C'est donc, 133 pages de programme. Voilà, Uneville-heureuse.fr. Voilà. Dire que c'est un retour vers le passé, c'est ne pas l'avoir lu. La première page dit je veux projeter Paris dans le Paris de 2050. Ce que je veux dans mon programme, c'est réussir à faire ce lien entre le Paris éternel qu'on aime tous, le Paris magnifique, avec ce mobilier urbain magnifique qui a rendu Paris iconique, avec le fait d'imposer que les nouvelles constructions respectent l'harmonie, l'identité de Paris, l'identité esthétique.
Il fallait pas construire la tour triangle alors.
Exactement, oui, merci de le dire. Avec cette promenade magnifique, je respecte plus que personne l'esthétique parisienne. Ensuite, que faut-il faire ? Il faut projeter Paris vers 2050. C'est pas seulement le Paris éternel, c'est aussi un Paris moderne qui sait utiliser l'intelligence artificielle, et merci de le dire, pour mettre la technologie au service des citoyens. Quand la technologie peut apporter plus de sécurité tout en respectant les libertés, il faut utiliser la technologie. Quand la technologie peut nous permettre de fluidifier la circulation, notamment en dotant tous les feux tricolores de la capitale de capteurs intelligence artificielle qui sont à même de déclencher que le feu devienne vert, parce que c'est insensé quand vous êtes une voiture, vous êtes bloqué au feu rouge alors que vous voyez une rue vide devant vous. À l'inverse, un feu qui peut rester rouge parce qu'il sait que si vous avancez, ça va engorger les carrefours d'à côté. Tout ça, ce sont des choses basiques. C'est déjà en expérimentation.
Mais expliquez-nous l'histoire de la promenade que Abel
alors, l'histoire de la promenade,
peut faire.
Donc, aujourd'hui, vous avez les voies sur berge qui ont été fermées par Madame Hidalgo.
C'est une des mesures fortes
de Madame Hidalgo. Je vais revenir à la manière dont elle a pris cette décision parce que c'est passionnant. On m'a raconté, quelqu'un de très proche d'elle à son cabinet me racontait que lorsqu'elle prend cette décision, elle se demande, il n'est plus à ses côtés et elle ne se représente pas. Donc, cette personne me raconte que quand Madame Hidalgo prend cette décision, elle se dit, quel symbole est-ce que je peux prendre, pardonnez-moi de la vulgarité, pour emmerder la droite? Et elle se dit, quel meilleur symbole que de fermer une voie qui s'appelle voie Georges Pompidou. Donc elle le fait pour des raisons exclusivement politiques. C'est pas un climatologue qui lui dit, attention, il faut fermer les voies sur berge. Elle se dit, je vais en faire un symbole. C'est comme lorsque la mairie préempte pour faire un logement social place des Vosges à 40 000 euros du mètre carré. C'est un symbole, il faut bien comprendre comment ils prennent leurs décisions.
Après, c'était aussi une façon de rendre les voies sur berge aux piétons.
Je vais y venir.
Elles n'ont jamais été
Vous avez des quais de Seine qui sont déjà partout aux piétons, partout dans Paris, et j'adore, je suis une grande promeneuse dans Paris, j'adore me promener là-bas, y compris sur les voies sur berge. Je vais y revenir. Donc elle prend cette décision, pardonnez-moi l'expression, pour faire un symbole bourrin de gauche. Et ensuite, vous avez la droite qui, pendant des années, s'y oppose, et puis soudain, qui se dit, bon, maintenant, nous, on ne veut pas être bourrin à revenir sur la décision, donc on ne le fera pas. Et donc, vous avez toujours, pour la droite, cette timidité, avec une forme d'effet cliqué où quand la gauche fait quelque chose, ça devient banal et la droite n'ose plus y revenir. Moi, j'ose. Moi, je dis non, il faut revenir sur ça. Il faut rouvrir les voies sur berge. Parce que le fait de les avoir fermées a engorgé toute la capitale.
Du coup, vous fermez
énormément.
En revanche.
Alors maintenant, ce que je fais, c'est que puisque je vous dis, j'adore me promener dans cet endroit, c'est magnifique, on voit tous les monuments de Paris, je comprends que les piétons et les cyclistes aiment cet axe. Alors qu'est-ce que je propose ? De rouvrir à la circulation la voie basse et de construire au-dessus. Ce qui sera à mes yeux une promenade magnifique. Alors justement, ce sont les seuls que je propose sur le mandat. Et je précise, comme je l'ai dit à chaque fois, que pour tout travaux qui dépassera les 10 millions d'euros, donc pour tout projet sur la voirie, je solliciterai un référendum. Parce que ça suffit de prendre des décisions sans les Parisiens. Donc ce projet, moi je l'ai construit, je le propose, je l'ai travaillé avec des ingénieurs en travaux publics, avec des architectes, je le propose, j'ai montré par intelligence artificielle pour que les gens visualisent ce que ça pourrait donner. D'ailleurs, je les invite à aller voir sarahpourparis.fr. Et ensuite, ce sont les Parisiens qui trancheront. Donc si j'arrive à convaincre sur ce projet, tant mieux. Je trouve que ce serait bien mieux, et pour les automobilistes, et pour les piétons, et pour les cyclistes, et pour les personnes handicapées, qui auront enfin une promenade facilement accessible, et pour les familles avec des poussettes, évidemment pour les riverains, beaucoup moins de bruit, ce sera sur le kebab plutôt que sous leur fenêtre, moins de pollution, parce que peut-être que vous le savez, qu'il y a beaucoup plus de pollution quand les voitures sont à l'arrêt et avec les systèmes de stop and go.
Autre question, Jérôme Martin.
Déjà, c'est mieux que ce que voulait faire un candidat socialiste il y a bien longtemps pour Toulouse, puisqu'il voulait couvrir le canal du Midi pour en faire une voie rapide. Donc bon, on aime mieux.
Comme quoi, la droite, c'est mieux que la gauche.
Ça a évolué.
Non, pour Paris, puisque vous êtes candidate à la mairie de Paris, Paris, c'est le premier désert médical. Donc c'est un vrai problème. On pense toujours à la Creuse, à la Lozère, etc. Mais en fait, le premier désert médical de France, c'est Paris. Comment on fait pour empêcher ça ?
Vous avez entièrement raison. Donc ce que je propose dans mon programme sur la santé, je dirais deux mesures principales jusqu'à ce que l'État fasse son travail. Vous savez que la compétence santé, c'est la compétence de l'État. Mais tout ce que peut faire une mairie, je le ferai si demain je suis élue maire de Paris. Premièrement, rebasculer les subventions que je considère clientélistes à des associations politisées sur des associations vraiment utiles. Par exemple, celles qui travaillent sur la recherche sur le cancer. Première chose. Deuxièmement, vous savez qu'il y a un énorme problème de stationnement, notamment pour le personnel médical. Aujourd'hui, vous êtes infirmière, vous ne trouvez pas de place de stationnement. Anne Hidalgo en a supprimé 30 000 pendant son mandat. Ce que je propose, c'est de remettre des places de stationnement partout où ce sera pertinent, évidemment sans effacer des pistes cyclables, etc. Il ne s'agit pas de faire ça, de les remettre partout où ce sera pertinent et de proposer la première heure de stationnement gratuite pour tout le monde. Ça va aider les infirmières libérales à chaque fois qu'elles se rendent quelque part, mais pas seulement. Ça va aussi aider les menuisiers, les plombiers, ceux qui ont des choses à faire à Paris. Et tous les Parisiens vous disent aujourd'hui, c'est devenu impossible de trouver un professionnel, un entrepreneur qui vient chez nous. Exactement, parce qu'ils ne peuvent plus se garer, donc ils ne viennent plus, ils ne veulent plus rentrer dans Paris. Première heure de stationnement gratuite. Pour aider les restaurateurs, on en parlait, de midi à 14h, pareil, le stationnement gratuit. Parce que c'est anormal que des gens qui veulent aller au restaurant à Paris doivent budgéter 36 euros juste pour le stationnement, avant même d'avoir pris la première entrée ou leur place, c'est déjà 36 euros. Anormal. Je vais simplifier drastiquement le stationnement à Paris. Ce sera 5 euros de l'heure et pour tout le monde, quel que soit le véhicule, quel que soit l'arrondissement. Tout ça, ça crée un manque à gagner pour la ville, vous l'imaginez, environ 100 millions d'euros, que j'arrive très très largement à financer par un plan de 10 milliards d'économies sur 10 ans. Si vous voulez, on peut le développer. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de mesures de pouvoir d'achat dans mon programme qui vont aider les restaurateurs, qui vont aider les professionnels, qui vont aider tous les Parisiens, les familles, à revenir dans Paris et à arrêter cette désertification et cette fuite des familles.
Alors moi, deux questions directes encore parce qu'il nous reste 3 minutes.
Allez, d'accord.
C'est une question de temps de parole.
En février prochain va être présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui vise à permettre aux maires d'avoir autant de latitude que le préfet quant à la réquisition de certains bâtiments vides, justement, pour une utilisation que la commune estimera être utile. Est-ce que si vous bénéficiez de cette possibilité, vous mettrez une priorité sur le sujet des violences faites aux femmes, parce qu'on sait que pour les hébergements d'urgence, c'est très compliqué sur Paris. Donc, que comptez-vous faire si la loi passe, si la loi est validée? Et deuxième point, où je serai un petit peu taquin, il n'y a pas très longtemps, dans Valeurs Actuelles, vous avez émis la position de reconquête entre les LR et le Rassemblement National de façon équidistante. Ne pensez-vous pas que cette équidistance peut faire perdre la droite, peut invisibiliser le Rassemblement National et faire en sorte que vous soyez in fine la candidate qui va faire gagner la gauche?
Alors, beaucoup de choses. Donc, première chose, jamais, jamais, je ne ferai perdre la droite. Au contraire, je suis là pour faire gagner la droite. Je suis là pour gagner. J'ai un véritable programme, 133 pages, on l'a évoqué. Je suis la seule candidate à cette élection à avoir publié un programme complet.
Donc, attendez,
chose, j'aimerais que beaucoup le...
Non, mais concrètement, si vous pouvez vous qualifier au deuxième tour, vous maintenez votre candidature, si vous êtes derrière Rachel Dati, par exemple?
Première chose, si je suis devant, je tendrai la main à toute la droite.
D'accord.
À toute la droite. Et quand je dis toute la droite, je vais jusqu'à tous les électeurs qui se sentent de droite, c'est-à-dire à ceux de Madame Dati, à ceux de Monsieur Bournazel y compris, à ceux de Monsieur Mariani. Donc je tendrai la main à toute la droite parce que je considère que si on est sincère, si on dit vraiment que notre objectif, c'est de garantir la sécurité des Parisiens et des Parisiennes, vous avez parlé des femmes, si on est sincère quand on dit qu'il faut lutter contre les gabegies, si on est sincère quand on dit qu'il faut résoudre la crise du logement
si
à Paris,
derrière,
alors on doit voter tous ensemble.
Si j'arrive derrière,
je le dis de la même manière, je serai toujours constructive pour que la gauche ne continue.
Donc vous soutiendrez Rachida Dati?
Je le dis, je serai toujours constructive. Je me mets quand même dans une hypothèse où je vais être devant monsieur. Je me mets dans
une... Mais est-ce que vous soutiendrez Rachida Dati?
J'ai une seule stratégie dans cette campagne. C'est présenter le meilleur programme et miser sur l'intelligence et la liberté des Parisiens pour arriver devant.
Pour
je tendrai la main
d'urgence
à toute la droite. Pour ce qui est de l'hébergement, vous parlez des réquisitions. Je considère que la mairie de Paris aujourd'hui a abusé de ses droits, abusé de son droit de préemption, qu'elle a créé en réalité la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui. Dans le logement social, en principe, vous devriez avoir une priorité pour ces femmes victimes de violences. Pourquoi vous ne l'avez pas ? Parce qu'il n'y a pas assez de rotation dans le logement social. Vous avez des gens qui ont obtenu un logement social il y a des années. À l'époque où ils bénéficiaient de faibles revenus et donc ils correspondaient aux critères d'attribution du logement social. Depuis, ils sont restés dans ce logement social parce que la loi ne permet pas de les en faire sortir. Je considère que c'est pas ça la justice sociale. Ma vision de la justice sociale, ça va être de vendre 10% du parc de logement social à leurs habitants, à leurs occupants, notamment en les exonérant de frais de notaire, ceux qui sont à la main de la ville, c'est-à-dire 6,3%, de les exonérer pour qu'ils puissent accéder à la propriété. Ça va responsabiliser tout le monde. Ensuite, c'est de faire sortir ceux qui gênent tout le monde et qui ne respectent pas le logement social. Ce que j'entends par là, c'est de vrais délinquants, des gens qui trafiquent de la drogue en bas des tours, par exemple. Tout ça va nous permettre de retrouver des places pour ceux qui le méritent vraiment, et notamment les femmes que vous citez. Et à mes yeux, c'est ça la vraie justice sociale.
Merci Sarah Knafo. Le temps qui nous était imparti pour le temps de parole est dû. Il est écoulé. Il est 11h. Merci à vous. Il est 11h17. Dans un instant, doit-on déboulonner les symboles de la monarchie du côté de Nantes ? La mairie veut enlever la statue de Louis XVI. Elle veut la mettre au musée et faire un audit de tous les noms des rues pour regarder ce qui a trait encore à la monarchie et au colonialisme. A tout de suite au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG les grandes gueules sur RMC et RMC Story, radio et télé pour les GG tous les jours. Si vous avez raté l'émission, vous avez les podcasts à votre disposition. Ça, c'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. On parle royauté, on parle monarchie. Avec plaisir, avec vous au 32-16. Avant-hier, mercredi 21 janvier, c'est le jour anniversaire de l'exécution de Louis XVI. Et du côté de la France insoumise, en particulier à Nantes, on veut déboulonner la statue du roi, la mettre au musée et regarder un peu tout ce qui a trait encore, entre plaques et objets divers de commémoration, à la monarchie, à la royauté.
Oui, bah parce que les insoumis sont les héritiers de Robespierre, hein. C'est leur héros, Robespierre. Je me souviens qu'Alexis Corbière a fait un livre sur Robespierre. Ils ne remettent rien en cause, hein. Les décapitations, la peine de mort. Ils sont contre la peine de mort aujourd'hui, mais visiblement à l'époque ils étaient pour. Les insoumis sont donc les héritiers de Robespierre. Comme héritiers de Robespierre, ils estiment que c'est insupportable de voir à Nantes une colonne de plus de 25 mètres juchée avec donc Louis XVI. Ça date de 1820, cette statue. Ils estiment que cette statue n'a rien à faire dans les rues de Nantes. Faut la mettre dans un musée parce que elle pose question. Dans une république, on ne peut pas avoir une statue d'un roi, et du roi Louis XVI en l'occurrence. Alors c'est William Ockham qui porte la liste Nouvelle Nantes, qui est la liste insoumise de Nantes. Est-ce qu'il a raison ? Il rappelle que ce roi de France a été jugé pour haute trahison.
Laura ?
C'est une honte. C'est une honte. C'est
pas une nostalgique de la monarchie ni de la royauté.
Sur certains points. Mais parce que je suis une fan d'histoire, et d'autant plus, alors moi je suis fan de la période Louis XIV, de Madame de Maintenon, de Madame de Montespan, de toutes, voilà, c'est vraiment mon
date. Ses intégrantes,
c'est alors, Madame de Maintenon a quand même fini femme officielle du roi de France, s'il vous plaît. Non, c'est une honte, je veux dire,
si à la place on met une statue de Jean-Luc Mélenchon.
Tu viens vraiment me chercher sur ce.
Non, mais ça aurait de la gueule. Sur 25 mètres, une colonne, avec Jean-Luc Mélenchon.
Tu t'arrêtes. Ah, ça suffit. Au-dessus. Non, mais notre histoire est celle qu'elle est. La France actuelle est telle qu'elle est parce que Louis XVI et Marie-Antoinette ont poussé
les
avantages de la monarchie et de la royauté à leur paroxysme. Manger de la brioche. Si vous n'avez pas de pain, manger de la brioche. C'est le résultat de ce que le peuple français est capable de faire quand il est mécontent, quand il se révolte. Donc non, on doit garder ça. Notre France a été façonnée par nos différents rois. Clovis a quand même instauré l'Église dans ce pays.
Donc c'est l'histoire de France.
Là, cours d'histoire depuis Clovis jusqu'aujourd'hui.
Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut pas renoncer à notre histoire.
L'histoire est telle qu'elle est. On doit expliquer.
C'est ce que dit William Ockham. Il dit oui. Mais justement, pour expliquer notre histoire, c'est dans un musée.
Pas
et
du
c'est
tout.
Pas.
En fait, il a tort parce que s'il y a bien une ville qui est au top, justement, sur le devoir de mémoire, c'est Nantes. Moi, je ne suis pas pour déboulonner les statues, mais à Nantes, vous avez des plaques qui explique justement exactement quelles ont été les parts de gloire et les parts d'ombre de chaque personnage. Et ça fonctionnait très bien comme ça. Donc je pense que ce projet, c'est une énième tentative de coup d'éclat pour redire, grosso modo, on a redécapité Louis XVI. Hein.
Faire des QR donc codes, voilà. Les gamins,
non, mais tu
QR
peux faire, tu peux mettre une plaque, tu peux installer une stèle. Non, mais... Et moi, je suis. Oui, même.
C'est des révolutionnaires au petit pied, quoi. C'est des gens qui veulent se donner l'image de révolutionnaires.
Et surtout que les
on est en 2026 et on va rejouer 1789 en 2026 parce que nous, on a l'âme de Robespierre et on est Robespierre, etc. Arrêtons, quoi.
C'est des sans-culottes.
Mais c'est des sans-culottes à la petite semaine, quoi. Ça va plus loin.
Non, mais
faut vraiment pas aimer la France. Faut pas aimer les Français. Faut pas aimer ce qu'on est. Faut pas aimer nos plus de 2000 ans d'histoire pour dire, tiens, on va cacher sous le tapis.
Oui, mais ça va plus loin parce que pour eux,
et puis c'est dans les musées, la France. La France, c'est pas poussiéreux, quoi. Oui, mais arrêtons, quoi.
Quand tu discutes avec des insoumis, ils t'expliquent que la France est née en 1789. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant
n'existe pas.
Doit être pas effacé, mais doit être rangé dans un musée, dans des livres d'histoire.
Non, mais je me méfie des révolutions culturelles. Tu sais ce que ça a mené dans un pays. Hein.
Abel, à juste titre, que Nantes était un haut lieu de l'esclavagisme du point de départ avec le Code Noir. Bon, mais ce que veut faire LFI, c'est lancer un audit des noms de rue des espaces publics nantais,
de manière à se débarrasser
des héritages coloniaux et esclavagistes.
C'est déjà fait. Quand vous vous baladez à Nantes, vous avez beaucoup de stèles, de plaques commémoratives qui expliquent tout ce qui s'est passé. Vous avez même, en fait, au bord de la Loire, vous avez une sorte de musée qui prend la forme carrément d'une cale de bateau où les esclaves étaient emprisonnés pour être emmenés vers les Amériques. Et même sur le port de Nantes, vous avez le nom de tous les bateaux qui sont partis pendant des siècles avec la date où ils sont partis de Nantes. Donc Nantes est déjà au top, honnêtement, sur la reconnaissance de ce qui s'est bien passé, mais des heures sombres aussi de l'histoire. Donc Nantes n'a pas besoin de ça en plus.
L'histoire n'est pas figée, tu peux très bien déboulonner des plaques et mettre des personnes beaucoup plus méritantes que ceux qui ont été esclavagistes.
Vu l'histoire de Nantes, si ça n'a pas été fait avant, c'est que les Nantais n'ont pas estimé urgentissime que ce soit fait.
Il faut partout être au contact de l'histoire. Oui, avec les explications, mais il faut être au contact de l'histoire partout. L'histoire, elle ne doit pas être cachée dans les musées. Justement, partout où tu te promènes, tu dois être au contact de ta propre histoire. C'est comme ça que tu vis un pays. C'est comme ça que tu deviens patriote. C'est pas en cachant les choses.
Enfin, c'est dans les régimes fascistes de cacher les choses. C'est dans les régimes fascistes qu'on efface l'histoire. Oui. C'est dans les régimes fascistes qu'on déboulonne les statues. Par exemple, quand Daesh a pris le pouvoir à un moment donné, ils ont cassé les statues, ils ont voulu effacer tout ce qu'il y avait avant.
Bien sûr.
Et c'est la même méthode. On efface tout et on recommence. Ben non, l'histoire de France, ils veulent Colbert, ils veulent supprimer Colbert. Ben non, mais Colbert, c'est le code noir. Colbert, c'est aussi celui qui a participé à façonner la France d'aujourd'hui. Oui, il faut l'expliquer. C'est dans les livres d'histoire.
Mais tu regardes, t'as des gens maintenant qui te disent oui, mais regarde. Les musulmans tuent au nom d'une religion, c'est honteux, nanani nanana, et on oublie complètement du fait de, si on gomme les heures sombres de notre histoire, on oublie ce que les croisés ont fait, on oublie les croisades, on oublie les templiers, on oublie des meurtres de protestants de tous les côtés. Je veux dire, l'histoire d'un pays n'est pas forcément nécessairement obligé d'être rose. Ce qui fait comme une personne, ce qui te façonne, c'est tes bons moments avec ta famille, mais c'est aussi tes traumatismes et de la manière dont tu t'es relevé. Moi, je trouve ça beau, où à la base, on a été un pays où on massacrait tout ce qui n'était pas catholique, de maintenant devenir le pays de la laïcité. Maintenant, on crache
un peu. Il faut se méfier de Napoléon aussi. Ceux qui veulent écrire une histoire.
Voilà.
Les centaines de milliers de morts qu'a fait Napoléon, il faut cacher Napoléon.
Mais voilà, je veux dire, dans ces cas-là, si on s'arrête de parler.
Mais d'ailleurs, ça fait un débat même entre les historiens et les militants. T'en as qui sont pour le déboulonnage, t'en as qui sont pour la plaque explicative, et ça fait vraiment un débat qui fait
À chaque fois, il y a des choses qui ont été faites dans les mœurs de l'époque qui ne choquaient pas, qui étaient faites dans les mœurs de l'époque.
À vous écouter aussi, toutes ces plaques qui sont posées dans les villes depuis X années, alors il faut qu'elles y restent. On ne peut pas les enlever pour un moment mettre des personnes aussi qui ont été peut-être plus méritantes.
Bah,
rien n'est figé là non plus.
Franchement,
qu'ils s'interrogent, qu'ils veuillent en débattre en disant écoutez.
Il y a moins d'avenue Lénine, par exemple, dans les villes communistes.
C'est vrai. Tu vois, on les a enlevées. Si tu veux des avenues qui portent le nom de chevaliers qui étaient esclavagistes, on peut mettre un QR code dessus pour dire voilà qui était ce monsieur.
On peut aussi l'enlever.
Franchement, je suis d'accord.
Dans les années 50, dans les années 60, il y a des personnes héroïques, plus méritantes, et puis on les met à la place.
Mais pourquoi pas, si tu veux, voilà, des rues qui sont
claires. Donc, les choses bougent, pas de problème.
Tu les donnes à des personnes méritantes, mais je ne suis pas pour gommer. On enlève, etc.
J'ai pas dit gommer.
Parce que justement, comme je disais, dans les mœurs de certaines époques, t'as des choses qui étaient tout à fait normales, donc il faut, moi je suis pour voir le QR code, que les gamins, en plus, ça va être ludique, ça va être rigolo, ils vont apprendre des choses. Tu es ce que la personne a fait pour la France, et tu es ce que la personne a fait contre.
Deux opinions.
Là, on est que dans histoire immédiate en ce moment, on pense que ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. La France est un vieux pays avec une longue histoire. Moi, je ne suis pas pour remplacer. On peut ajouter, mais pas remplacer, parce que justement, il faut que cette longue histoire. En plus, ça fait partie de notre patrimoine et les touristes, ils viennent voir ça.
C'est pour ça aussi
que les vieux gens viennent
par exemple des rues. Seront choqués de ce que certaines personnes connues et qui ont façonné notre pays actuel auront fait. C'est l'évolution historique et on doit apprendre de nos erreurs.
On va aller en Gironde et en Côte d'Or. Écoutez David. Bonjour David.
Bonjour.
Très bien David. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, parce que surtout à l'époque actuelle, on ne sait pas du tout où on va. Si on oublie d'où on vient, en bien ou en mal, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux gamins d'où on vient, quelle était notre histoire, comment s'est construite la France. C'est pas anodin, il faut pas effacer. Effacer pour effacer, ça réglera rien, ça expliquera rien surtout, et ça va perdre encore plus tout le monde.
Donc vous êtes, laissons les plaques, parce que la cité girondine ou du côté de Bordeaux, ça a été aussi des points de départ, des bateaux, des navires pour l'esclavage. Il doit y avoir peut-être encore des plaques qui peuvent être sujettes à polémique aussi, David.
Pas assez, à mon sens, à mon goût. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de pédagogie, d'explications. La place de la Bourse à Bordeaux, à la base, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était la place royale. Il y avait une statue du roi à l'époque dessus. Et on a enlevé tout ça, on a tout gommé, le château Trompette, on a tout gommé, on a tout enlevé. Et on ne sait plus trop d'où on vient, quelle était notre histoire, comment on s'est construit sur des pages très très sombres. Mais ça, faut pas les oublier.
Alors David, vous êtes pour qu'on laisse et qu'on explique. On va voir ce qu'en dit Richard du côté de la Côte d'Or. Bonjour Richard.
Bonjour Richard.
Oui, bonjour.
Vous êtes du même avis que David?
Oui, il faut qu'on garde ces monuments qui rappellent l'histoire. Je voulais faire un parallèle à une époque aux États-Unis, ils voulaient supprimer des statues de
général Lee.
C'était la même prêtre, un pasteur noir qui avait dit que non, il fallait le garder justement pour se souvenir que ça avait arrivé. En supprimant ça, on supprime tout, on ne sait plus ce qui se passe dans notre histoire, on ne sait plus d'où on vient, comme disait David.
Ça reste dans les livres d'histoire, c'est pas forcément une plaque.
Les gens ne lisent plus les livres d'histoire. Maintenant, les gens sont sur Facebook, ce genre de choses, ils s'intéressent plus aux livres, ce genre de choses. Donc, si on n'a pas des monuments qui sont là pour attirer un petit peu la curiosité, les gens n'iront plus, même dans les musées, les gens ne vont plus dans les musées, à part les gens un peu cultivés qui veulent se renseigner, mais au moins la statue elle est dehors, elle est là, tiens, c'est qui Louis XVI, ça a peut-être attiré l'attention, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe.
Ce
que je disais dans le message, c'est qu'en laissant Louis XVI, ça rappellera peut-être à certains qui sont au gouvernement que le peuple peut soulever à tout le monde.
C'est sur cette conclusion, ce petit rappel, cette piqûre de rappel,
très bonne conclusion.
Richard. Que nous conclurons notre discussion. Salut Richard, salut David. Merci à tous les deux d'avoir eu les dents en plus. Dans les GG. Est-ce qu'il faut déboulonner les symboles de la monarchie, oui ou non? On va voir ce que vous en dites. Attention. Non,
évidemment.
91%. Allez, on termine avec ces déserts médicaux. On avait dit qu'on en parlerait avec le docteur Jérôme Marty, en particulier de la Belgique, des dermatos belges dans la ville de Moucron qui ne veulent plus accueillir des patients français parce qu'ils en ont trop. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, aujourd'hui Abel Bouilly, Jérôme Marty, Laurent Varton-Martinez, il nous reste 10 minutes à passer ensemble, 10 minutes à passer avec vous au 32-16 et encore une fois aujourd'hui, merci pour tous les témoignages, toutes vos opinions, on les écoute bien évidemment dans les GG, dans les grandes gueules.
Bravo standard.
On va terminer à Alexandre et à Hubert qui font un travail formidable, il est midi moins 20, on va parler du désert médical.
Jérôme, c'est ton moment.
Hop, cap de Vielle. Depuis trop longtemps. Jean-Bruce Cap Dylan.
C'est un journaliste.
Jean-Bruce Cap Dylan.
Pourquoi est-ce qu'on va parler des déserts médicaux? En fait, c'est venu de Belgique, de la ville de Moucron, qui en a ras-le-bol de voir arriver des patients français. Enfin, c'est plutôt le service dermatologie qui ne peut plus accueillir de patients français, tellement il en a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de dermatos en France.
Et que l'établissement est situé à 30 minutes de Lille. Donc oui, c'est pas loin. Et effectivement, on ne trouve plus de dermatos en France. Et donc, on va les chercher ailleurs, et notamment en Belgique. C'est quand même un peu... Pardon, c'est un peu misérable quand même, cette France qui n'est pas capable de fournir des dermatos à sa population. Et la population est obligée d'aller dans un pays étranger, plus petit que nous, et c'est pas faire injure à la Belgique de le dire, mais qui visiblement est mieux fourni, en tout cas on en trouve plus facilement. Donc je vais me tourner vers toi, Jérôme, en plus tu sors d'une grève. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de dermatos en France? Comment ça se fait qu'on soit obligé maintenant de passer la frontière pour essayer de se soigner?
Parce qu'on n'en forme pas assez. Parce qu'on n'en forme pas assez. C'est pareil pour les rhumatologues, c'est pareil pour tout un tas de spécialités. Parce qu'encore aujourd'hui, les formations se font plus en rapport aux places qu'il peut y avoir dans les hôpitaux pour faire tourner les services que là où il y a une demande en ville. On ne tient pas compte de la ville, on tient compte que de l'intérêt momentané du service hospitalier, quoi. Et on est totalement décalé avec les besoins. Et ça nous amène à des déserts qui sont pas des déserts de généralistes, et c'est bien qu'on en parle dans ce sens, parce que le désert, c'est d'abord un désert de spécialistes. Les gens n'arrivent pas à trouver des consultations en temps et en heure compatibles avec la qualité des soins, des cardiologues, des rhumatos,
pour les dermatos, les chiffres sont les suivants. Aujourd'hui, en France, la moyenne est de 3,25 dermatologues pour 100 000 habitants. Donc un peu plus de 3 dermatologues pour 100 000 habitants. Il en faudrait le double pour répondre à la demande.
Mais il en faudrait le double, il faudrait en former le double, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais s'agissant de la Belgique, c'est tout le problème des Français qui sont proches d'une frontière. C'est pas que pour les cigarettes qui franchissent les frontières aujourd'hui, c'est aussi pour trouver des médecins. On avait ce problème vers l'Espagne, on a ce problème vers la Suisse, on a ce problème vers la Belgique. Tous les pays frontaliers, en fait, les Français franchissent la frontière pour trouver plus facilement un médecin.
Les délais d'attente, ophtalmo aujourd'hui en France, délais d'attente moyen.
4 mois?
Non, 25 jours. Non, délai d'attente moyen, 25. Donc ça prend en compte les endroits où il y en a et où il n'y en a pas. 25 jours. Pour un dermatologue, 36 jours. Un mois. Et pour un cardiologue, 42 jours d'attente.
Mais je raconte toujours cette anecdote que je dis aux politiques et qui est vraie. Moi, pour un dermato, ça m'est arrivé deux fois. J'ai vu des patients qui avaient des rendez-vous dans 3 ans.
Non.
Véridique. Dans 3 ans. Deux fois, ça m'est arrivé.
Au cours de ma vie professionnelle. Il a le temps de...
Donc, si tu veux, il y a une vraie crise. Mais tout ça n'est pas arrivé tout seul. C'est ce qu'il faut se dire. Ce qu'on est en train de vivre dans le système sanitaire, c'est pire que le scandale du sang contaminé. C'est ça qu'il faut bien voir, quoi. Je veux dire, ça fait des années, vous en faites écho, qu'on voit des gens mourir sur des brancards aux urgences. En France, au 21e siècle. C'est pas arrivé tout seul, ça. Ça fait des années que les Français ont des retards de soins qui font que dans nos cabinets, on voit arriver des pathologies qu'on voyait plus depuis 20 ans et qu'on voit réémerger. C'est pas arrivé tout seul. Il y a des responsables et des coupables. On les connaît. On a poignardé la médecine, il y a du sang sur le manche. On sait exactement qui l'a fait depuis des années. Donc, à force d'avoir une espèce de politique à la con, court-termiste, où on regarde que l'effet comptable du soin, on a brisé notre système. On a voulu le faire sans nous. Cette grève a montré aux politiques que la médecine libérale existait. Ils n'avaient pas pris compte. On leur a annoncé 2 mois et demi avant, et pour les chirurgiens qui se sont expatriés en Belgique, on en reparle, on leur a annoncé 7 mois auparavant. Tu crois qu'ils auraient réquisitionné longtemps en avant? Non, ils l'ont fait dans l'affolement parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte que, dis donc, il y a une médecine libérale, et quand elle s'arrête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Comme c'est curieux.
Mais Jérôme, Oui, c'est pas mal, parce qu'effectivement, là, on sort plus du tunnel. Ça va comment faire?
Vous avez
Laura, si tu la mets dans un tunnel, en plus, on ne sait pas comment ça se termine avec sa voiture.
Surtout qu'elle n'en sort jamais.
Ouais, voilà, exactement.
Vous voulez que je parle du soja?
Non, mais pardon, mais ça fait des années. On dit ça. Des années.
Et ça
dit,
mais rien n'est fait.
Et il se passe rien.
On va prendre un exemple concret.
Moi, j'ai mon mari.
Bah attends, celui de William qui est du côté de la Haute-Savoie, qui est artisan dans le bâtiment. Bonjour, William.
Bonjour.
Bienvenue. Est-ce que vous, de Haute-Savoie, vous allez en Suisse?
Ben oui. Voilà. Quand on a hélas eu une accumulation de soucis de santé entre moi et mon épouse, ce que je disais au standard, c'est que mon fils aussi qui est sportif, qui fait souvent du sport, qui a des échographies, des examens des fois à passer. Ici, en Haute-Savoie, tout est compliqué. Ça fait vraiment plus de qu'on galère à trouver des examens, des choses comme ça. Et puis, en fait, Mais à chaque fois, le plan B, après, il faut avoir les moyens, parce que les cabinets suisses privés, Oreco, Radio, Scanner, IRM, ils peuvent vous prendre en 48 heures. Mais bon, après, il faut payer. Il n'y a pas de sécurité sociale, etc. Nous, on n'est pas frontaliers. Moi, je suis artisan en France. Mais voilà, quand vous avez des symptômes un peu délicats, et puis que les médecins en France, quand vous arrivez à en avoir un, eh ben oui, d'accord, c'est urgent, et voilà, on arrive pas à avoir d'examen. Donc nous, c'est le plan B ici, quoi.
Le plan B, c'est le plan si tu voulais donner ton exemple, toi aussi.
En fait, c'est justement les délais et que la santé devient un produit de luxe. Je vais vous donner, du coup, l'exemple de mon mari. Il avait un petit, alors moi j'appelais ça un choc à pic. C'était un petit grain de beauté, un peu...
C'est élégant. Il a la même taille, ça devait être joli.
Ouais. T'as un petit choc à pic. Donc, il l'a fait voir une fois. On lui a dit non, mais c'est rien, etc. Le truc a grossi. À chaque fois qu'il voulait aller voir un dermato en région parisienne, c'était 3 à 6 mois. Bon, alors déjà qu'un mec pour se faire soigner, c'est laborieux. Mais alors, quand on lui dit ton rendez-vous, clairement, il prenait pas rendez-vous. Et au moment où on s'est marié, il a voulu enlever du coup son choc à pic pour que ce soit esthétiquement beau, sans penser que c'était grave. Donc on était sur un carcinome qui est en train de vivre sa meilleure vie, qui est en train de se rattacher au nerf optique. Donc clairement, on se mariait un an plus tard, il était aveugle. La seule manière dont il a pu être opéré rapidement, 10 000 euros ça nous a coûté. 10 000 euros dont 7 000 qu'on a dû sortir de notre poche. Donc maintenant, en France, il y a deux options. Tu ne te soignes pas ou... tu payes pour être soigné. C'est la seule méthode. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit ? Je préfère aller en Suisse, payer 3 fois le prix, mais au moins je suis soigné.
Mais ce qui est scandaleux, c'est une mécénat de vitesse, alors qu'on cotise quand même beaucoup.
C'est toujours la même chose. Où va l'argent ? Où va l'argent ? Moi, j'ai eu le même cas aussi pour une de mes filles. On a attendu près de 6 mois pour consulter un dermato sur Paris. Sur Paris. Donc, c'est quelque chose qui est gravissime. Mais j'avais une question... Est-ce que la filière dermatologique, si je peux utiliser cette terminologie, souffre d'une crise de vocation plus importante que dans d'autres?
Non, elle souffre pas d'une crise de vocation.
Non,
on n'en forme pas assez. Point, on se donne pas les moyens de. Mais c'est le problème de ce pays. Ce pays n'a pas une vision à long terme de la santé. Il ne raisonne pas à 15 ans. Il n'a pas de planification. Il n'a aucune politique de santé réelle. Aucune. On raisonne même pas à 6 mois. On raisonne à 1 mois.
Avec des mises à santé qui changent.
On l'a vu avec l'histoire des arrêts de travail. On a voulu faire des quotas tout de suite pour avoir un bénéfice tout de suite. Et puis on s'est aperçu que c'était pas médical. Il a fallu qu'on fasse reculer. Enfin, le gouvernement s'est aperçu que c'était pas médical parce qu'on lui a mis le revolver sur la tempe. Et donc il a reculé. Mais ça, c'est des réformes débiles. Je veux dire, à force de construire la médecine sans les médecins, on arrive à une France sans médecins. C'est aussi simple que ça. Et le problème qui va se poser aux politiques, je le dis et je les préviens, c'est que s'ils continuent comme ça à ne pas avoir une vraie politique de santé, ils vont être soumis au mercato. Parce qu'aujourd'hui, il manque 6 millions de médecins dans le monde. Dans 10 ans, il va en manquer 12. Ça veut dire que les pays qui sont autour de la France vont s'intéresser aux médecins français.
Oui.
Ils sont les mieux formés du monde.
Ils vont aller dans
des pays qui les respectent.
Et qui les payent.
Si les politiques de France ne veulent pas comprendre qu'il faut construire avec nous, on va l'organiser le mercato.
Bah, je peux te donner l'exemple d'une jeune fille que je connais bien, qui est une amie de ma fille. Elle termine médecine. Là, elle a fini depuis quelques mois. Elle se barre.
Voilà,
elle va à l'étranger. En plus, elle a la chance d'être trilingue.
Elle
s'en va.
Voilà.
Non, mais pourquoi il ne faut pas que les Français pensent que.
Elle s'en va, elle le dit clairement. Elle le dit merci à la France de m'avoir formé. Voilà. Mais je vais aller très bien gagner ma vie.
Le problème, surtout, c'est qu'on devient maltraitant à notre corps défendant. C'est-à-dire qu'on fonctionne en mode dégradé, à l'hôpital, en clinique et en ville. En mode dégradé, c'est quand tu es. Un, là où normalement tu es deux, là où tu as 4 infirmières, là où normalement tu en as 6, et les 4 font le boulot des 6, et elles s'épuisent, etc., etc. Et donc, à leur corps défendant, elles deviennent maltraitantes. Et comme on en a marre de devenir maltraitant, eh ben, on va dans des pays où on n'est plus maltraitant.
C'est normal.
Et on nous donne les moyens de bien soigner.
Tu as une culpabilité, tu fais des erreurs. Enfin, je veux dire, mais ça, c'est n'importe quel
être humain.
Quand
aujourd'hui,
t'es épuisé, stressé, à bout.
Ouais, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est si dans 5 ans, est-ce qu'on aura les délais qui auront raccourci pour avoir un médecin ou pas ?
Mets-moi ministre de la Santé.
Mais le temps qu'on m'a mis
à
détruire.
Mais oui, merci à la santé.
Mets-moi à la santé, tu l'auras.
Mais combien de
mais
temps
moi, je voudrais savoir.
Je veux dire que c'est une boutade quand je dis ça. Mais quand on avait dit avec Mathias Vargon, on s'y met à tous les deux, lui pour l'hôpital, moi pour la ville, je suis désolé, mais on a des idées qui sont autrement plus punchy et autrement plus adapté
au système de santé qui va te sauter dessus. Mais t'as Bercy qui va te sauter dessus en disant désolé monsieur Marty, monsieur le ministre, mais on peut pas.
Monsieur le ministre, il se laissera peut-être moins moquer sur les pompes que les autres.
Oui, mais je
suis désolé, on a deux ministres qui sont partis, je vous le rappelle.
Oui, mais là, on a
Aurélien Rousseau qui s'est barré. avec juste raison, et on a Yannick Neuder qui devait reprendre le poste et qui l'a pas repris parce qu'il a dit on m'en donne pas les moyens. Oui, mais en fait tous les ministres de la santé successifs ils te disent on n'en a pas les moyens. Le ministre de la santé en France c'est le 19e rang ministériel pour la deuxième préoccupation des Français. Je vais te dire, colle-moi là, tu vas voir si mon
ministre. La ministre actuelle. La ministre actuelle,
c'était médecin.
Bah, c'est une radiologue.
Une rhumatologue.
Donc on a déjà une médecin à la tête de la santé.
Mais elle a pas les moyens.
Oui, donc c'est bien.
Elle a pas les moyens.
Enlève une radio à un radiologue.
C'est Bercy qui commande.
Je crois qu'il faut qu'on se taise.
Merci à William de nous avoir donné l'exemple suisse. Merci à tous. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle session de GG. En attendant, le débat continue sur RMC, RMC Story avec Charles Magnien. Bonjour, mon cher Charles.
Bonjour, les amis. Salut les GG. Salut Alain. Salut Olivier. Salut à tous. Il faut casser la gueule aux Chinois. Vous savez qui a dit ça?
Oui, Serge Papin.
Oui, le ministre du Commerce.
Attends, ils parlent tous comme ça maintenant. Hein, voilà.
Il a mis les lunettes aussi. Ah
ou... Non, mais est-ce qu'un ministre peut se permettre de parler comme ça? Il faut casser la gueule aux Chinois, dit-il.
Bah, il parle comme Trump.
Exactement. Est-ce que ça vous choque qu'un ministre du Commerce annonce comme ça?
Bah, les Chinois veulent nous écraser. Ils ont dit qu'ils étaient inarrêtables. Donc,
voilà. Oui, enfin, c'est le rôle d'un ministre de parler comme ça. On va aussi parler de ce chiffre alarmant. Un Français sur 10 a déjà consommé de la cocaïne. Enfin, sur ce plateau, non, on n'est pas 10, mais presque. En tout cas, c'est un fléau de santé publique. Est-ce qu'on est devenu un pays de drogués? On va se poser la question parce qu'on est champion en antidépresseurs, en cannabis, en cocaïne. Ce qui est un vrai problème.
Un pays qui va bien.
Tiens, et on posera la question à Jacques Lebrun. Est-ce qu'il a déjà consommé de la drogue?
Jacques, tu rigoles.
Jacques, il a été à TF1 pendant tellement d'années, il a tout vu, lui.
Et voilà, exactement. Témoignage de Jacques Legros. On parlera aussi, tiens, de cette tendance, la géolocalisation de ses proches. Vous savez, savoir en permanence avec les applications, avec les AirTags.
Pour les enfants, notamment.
Pour les enfants, mais aussi pour le conjoint, pour les amis. Est-ce que, tiens, est-ce qu'à 11h53, Alain et Olivier savent exactement où sont leurs femmes, leurs enfants. Est-ce qu'on sait
ils
tout
ont peut-être pas envie de savoir.
Raison, je vais regarder.
En revanche, ouais, en revanche l'inverse, elles savent, tout, elles savent où on est parce qu'on fait que de l'antenne.
Ah oui,
nous, on a une preuve.
Il y a une inégalité de base.
En tout cas, est-ce qu'il faut géolocaliser ses proches en permanence? On aura ce débat tout à l'heure dans Estelle Midi. Et puis, le tu préfères, épargner ou dépenser? Est-ce que vous mettez de côté ou est-ce que vous claquez tout, les GG? Est-ce que ça dépense autour de la table?
Dépenser plutôt.
Ouais, ça dépense.
Comment on dit épargner?
Jamais le coffre-fort le plus riche du cimetière, quoi, c'est ça?
Ah oui, c'est vrai, exactement.
C'est les expressions des vieux. Mais qui gardaient tout leur pognon.
Fumier.
Dans la boîte de biscuits.
On verra en tout cas si vous épargnez ou si vous dépensez dans un instant avec autour de la table. Donc Jacques Legros, Jean-Philippe Doux, Élise Goldfarb, c'est parti pour Estelle Midi.
Et allez, bonne émission au 32-16, bien évidemment, et à lundi 9h.
For sure.